Bonjour. D'une question toute simple, comment vous vous contournez par rapport aux petits enfants? Comment vous, quand vous sentez que vous vous heurtez à la résistance des parents, tout simplement, comment vous faites pour aller plus loin? C'est effectivement l'adulte qui amène l'enfant. L'adulte décide que finalement il veut voir les choses autrement et qu'il ne veut plus amener l'enfant. Ça, j'imagine que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais comment est-ce que vous appréhendez ce moment où vous sentez très bien que l'enfant finalement est là pour exprimer quelque chose dont il n'est pas vraiment, j'emploierai le mot responsable, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais si l'adulte lui n'est pas prêt à se remettre en question, donc, et qu'on est bien loin du cas que vous avez cité tout à l'heure de la maman qui remercie sa petite fille, et si vous dites que ça c'est pas le cas le plus fréquent, alors comment fait-on quand on a un enfant qui vient pour un symptôme, qu'on est pédopsychanalyste, est-ce que ça veut dire qu'on essaye de prendre en charge aussi les parents? Est-ce que, au contraire, c'est contraire à votre éthique? C'est-à-dire, si vous vous occupez de l'enfant, vous ne prenez pas, vous n'intervenez pas auprès des autres membres de la famille. Comment est-ce que vous essayez, vous, d'aller un peu plus loin quand vous sentez que les gens les plus proches de l'enfant se protègent ou ne peuvent pas, tout simplement, permettre à l'enfant d'aller plus loin? Voilà, c'est tout.
Oui, alors, bon, comme vous le disiez, effectivement, lorsque les parents décident l'arrêt pur et simple du travail, on ne peut pas y faire grand-chose. On ne peut rien y faire, c'est quand même le parent qui décide. On ne peut que s'incliner. Bon, moi, ce que je fais quelquefois, j'argumente un petit peu, c'est dommage. Mais ça provoque en règle générale pas grand-chose. Donc, on ne peut pas faire plus. En ce qui concerne les autres membres de la famille, alors là, moi, j'ai, à titre personnel, j'ai pas pour habitude de suggérer un travail d'autres membres de la famille. Ceci étant, lorsque vont être évoquées effectivement d'autres personnes, ça peut susciter le désir que quelqu'un soit pris en charge. Je vois justement l'autre jour. J'ai une maman qui venant pour son petit garçon, m'a dit « Oh, mais il faudra aussi que je vous amène ma fille. » Parce qu'en fait, bon, elle a compris, mais elle l'a compris. C'est pas moi qui le lui ai dit. Elle a compris que sa fille, elle aussi, faisait partie de ce schéma, on va dire, névrotique et qu'elle aurait quelque chose à faire. Mais je ne vais pas le dire, ça serait aussi bien maladroit que d'avoir l'air de vouloir rapter toute une famille en analyse, oui. Non, les patients le ressentent spontanément ou non?
Justement, dans le rapport de la famille, pour vous, les enfants, c'est de quel âge à quel âge? Et dans la mesure où vous avez un rapport privilégié avec un enfant, comment on peut... Souvent, un enfant qui a besoin de la souffrance, il a besoin aussi peut-être de certains mystères, d'entretenir, de se construire, et il peut se sentir parfois trahi par des relations avec les parents ou avec la fratrie, le temps de sa construction, hein, je ne parle pas de l'idéal après. Donc pour ça, l'enfant, c'est de quel âge à quel âge, pour vous, et le rôle des parents là-dedans, est-ce que les parents sont là pendant la séance, est-ce qu'ils ne sont pas là? Quand vous dites après, vous en parlez avec les... Vous essayez de faire un... Voilà, enfin, c'est un peu nébuleux ce que je vous posais, mais je ne sais pas si je me fais entendre.
Oui, alors en ce qui concerne la présence ou non des parents, alors là, c'est l'enfant qui choisit. Quel que soit son âge, il peut y avoir des enfants tout petits qui acceptent d'être seuls en séance ou non, d'autres plus grands qui ne veulent pas du tout. Alors moi, dès le début, je suggère que ça pourrait être bien effectivement que la maman, si on reste sur la maman qui accompagne, reste dans la salle d'attente. Mais ceci étant, il faut que ce soit l'enfant qui le décide. Il est vrai que... souvent au début, que la maman reste, c'est compréhensible, c'est un peu normal. Il faut aussi que la confiance se mette en place. Mais je trouve qu'après, au bout de quelques séances, c'est quand même mieux qu'elle soit en salle d'attente. Ça va permettre à l'enfant effectivement de s'exprimer plus librement et le travail sera de meilleure qualité. Mais là encore, je n'impose rien puisque ça serait mettre en place à nouveau une résistance et ça ne ferait pas avancer la cure. Il y a des enfants qui, très spontanément, sont contents d'être seuls, qui même expédient leurs parents dès le début de la séance. D'autres qui ne veulent pas du tout. Il est bien évident que l'attitude que va avoir l'enfant dans la présence ou l'absence du parent témoigne un petit peu de la suite. Ceux qui très volontiers acceptent d'être seuls sont ceux qui vont avancer le plus vite, puisqu'ils témoignent dès le début d'un désir d'individuation que n'ont pas les autres. Ça donne le tempo, malgré tout. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu.
Je vous en prie. Il y a des micros partout en ce moment. Mais on peut. Oui. D'accord. Oui, dans une fratrie, quand vous avez entrepris un travail avec un enfant, c'est aussi un travail, vous dites, d'individuation. Et le fait qu'à un moment donné, la maman pense qu'un autre enfant, un autre de ses enfants, puisse avoir besoin d'un travail de psychanalyse. Est-ce que c'est vous qui avez pris en charge cette autre personne de la famille? Et qu'est-ce que vous pensez des rebondissements que ça peut avoir sur le travail que vous faites avec le premier enfant, si c'est vous qui avez pris en charge l'autre personne de la famille? Parce que, comme vous dites bien, d'individuation, c'est
Alors là déjà, lorsqu'un parent pense que quelqu'un d'autre de la famille a, pourquoi pas, peut envisager une thérapie, bon, déjà moi je laisse les gens choisir leur mode de thérapie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus que la psychanalyse, et la personne de leur choix. Et si effectivement je suis choisie, alors là j'ai envie de vous dire, ça s'inscrit de la même manière que des adultes qui viendraient en thérapie et qui se connaissent. Bon, ce sont des choses qui arrivent fréquemment, où une personne va venir, va être amie avec une autre personne, au bout de X temps va lui en parler, va venir aussi comme patient ou comme patiente. Ces deux personnes se connaissent, mais il est bien évident qu'elles sont deux personnes uniques et différentes, et qu'on ne va pas parler de l'une à l'autre, ni inversement. Et dans une famille, la même chose va être mise en place, effectivement, où le lien y est, mais pas au niveau de la cure. Il ne va pas falloir mélanger les histoires, parce que même sur une même histoire familiale, même deux enfants d'une même fratrie, même s'ils ont les mêmes parents, même si a priori ils ont la même histoire, ils auront chacun eu une perception différente de l'histoire, de cette histoire familiale. Donc le fait qu'ils soient frères ou frères et sœurs fait que de toute façon ils sont des individus à part entière. Ça, moi je n'en tiens pas compte, j'ai pas à en tenir compte.
De faire une séparation, ou est-ce que de toute façon ça n'a pas un retentissement réel sur le travail, parce que ils sont unis dans cette famille-là. Donc je pense que moi j'ai l'impression que dans certains cas ça peut être extrêmement positif pour la famille, dans d'autres est-ce que ça peut être un obstacle à celui qui a eu le courage d'entreprendre une cure avec vous, que c'est à ce moment-là que l'autre de ce frère ou sœur arrive avec vous. Vous voyez, il y a entre l'éthique que vous pouvez manifester et là, et moi je voudrais savoir ce que vous pensez de la réalité que ça peut avoir. Enfin, de la réalité, même si c'est non dit. Hein, c'est dans la
Mais alors, ça voudrait dire que ça revient à une sorte de peur, de crainte à ce moment-là, que les informations de l'un puissent interférer chez l'autre ou inversement. Et là, c'est toute la confiance qui entre en ligne de compte. Mais à ce moment-là, un travail de qualité ne peut se faire que sur une base de confiance. Il va falloir que le patient, quel que soit son âge, ait confiance en son analyste pour pouvoir mener à bien sa thérapie.
Le problème de confiance, je pense que c'est essentiel chez des enfants qui sont en difficulté, qui sont effectivement le symptôme de leur famille. Et voilà. Et donc, ils sont à ce moment-là aussi fragiles que leur symptôme peut être fort. Et donc, cette confiance, autant que vous dites quand c'est un adulte, on peut demander à un adulte de prendre sur lui, d'accepter. Mais c'est vrai qu'un enfant se construit. Je me dis, c'est ça, il faut, donc ça veut dire que ça crée un autre travail sur le travail, parce que je me dis, il y a presque aussi systématiquement une remise en confiance de la relation que vous avez en tant que professionnel avec l'enfant, sauf si c'est dans une famille idéale où il y a, bon, mais encore, il y a jamais de famille idéale. Donc c'est ça, je me dis, comment vous, j'ai l'impression qu'on peut pas ne pas en tenir compte, et qu'effectivement un adulte, on peut lui demander de faire appel à sa responsabilité, à sa lucidité, pour dire, bon, ben, effectivement, on partage le même médecin, on partage le même coiffeur, on partage ça, bon, ça vient comme ça. Mais un enfant, dans son travail de construction, quand il est fragilisé, effectivement, par la douleur que lui procure ce symptôme, voilà, je me dis, c'est l'impression qu'il y a une attention particulière à faire avec un enfant comme ça. Enfin,
oui. Mais est-ce que ce n'est pas l'essence même de la démarche? Les enfants qui viennent sont forcément des enfants qui sont effectivement sensibilisés par une problématique familiale. Donc ça va avec la démarche. Mais vous savez, si l'enfant n'a pas confiance, il ne vient plus. Peut-être plus spontanément qu'un adulte même. L'enfant, s'il n'est pas bien, il le dit déjà. Il le dit, alors qu'un adulte ne le fera pas forcément. Il dit, je ne suis pas content, ça ne me plaît pas. Les enfants nous disent des choses, je crois qu'on en revient vraiment au thème, nous disent des choses, effectivement, que les adultes ne disent plus, parce que ça ne se fait pas, parce qu'ils n'osent pas, alors que l'enfant, lui, va le dire. Si un enfant a le moindre doute quant à certaines de nos attitudes, ils veulent manifester. Le non-dit, est, à ce niveau-là, je dis bien, est beaucoup plus faible chez l'enfant que chez l'adulte. Je dis bien à ce niveau-là. Hein. Il est plus spontané. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Pardon.
Vous avez bien répondu dans la mesure de vos possibilités. Oui, c'est le.
Oui.